garder le paysage même si l'on est sous l'eau. Mais il faut savoir que le paysage qui nous attend sur la rive est quand même très différent. Il faut donc regarder le paysage même si l'on est sous l'eau, dans l'astral, mais progressivement apprendre à monter, de façon à ce qu'un jour on arrive hors de l'eau et que l'on puisse se mettre debout sur l'eau. Et je vous demande de réfléchir à cette image. Être debout sur l'eau, marcher sur l'eau. Et j'ai envie de faire un petit jeu avec vous. Dites-moi qui a marché sur l'eau. Bien sûr, tout le monde connaît l'histoire, et vous avez raison quand vous dites c'est Jésus. Jésus a marché sur l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'il a marché sur l'eau? Réfléchissez un tout petit peu. Et en réfléchissant, ne réfléchissez pas avec la tête, mais avec le cœur. Rentrez profondément en vous-même et essayez de recevoir avant que j'aie pu parler. Quand je ne veux pas simplement parler, je me moque de parler. Je me moque complètement de prononcer les mots. Je voudrais faire vibrer le cœur. Donc, essayez de percevoir. Pourquoi est-ce que Jésus marche sur l'eau? Pourquoi est-ce qu'un grand maître, adombré par le Christ, ou étant le Christ lui-même, pensait la chose comme vous le voulez? Je ne veux pas discuter de cela ce soir. Pourquoi est-ce que donc Jésus Christ éprouve le moyen de donner témoignage qu'il peut marcher sur l'eau? Il n'y a qu'une raison. Jésus-Christ ne voulait pas donner de témoignage de son pouvoir. Il n'en avait rien à faire parce que tout simplement, le pouvoir, dans sa conception, était une chose parfaitement naturelle, comme manger ou boire. Donc cela ne méritait aucune démonstration possible, à part quand il s'agissait de sauver un plus petit ou un damné. Donc le but n'est pas dans la démonstration. Le but est dans l'expression du symbolisme. Il faut savoir que tout au cours de sa mission, Jésus-Christ n'a pas démontré ce qu'il pouvait faire. Il a simplement évacué hors de lui, dans le manifesté, simplement donc exprimé les symboles qui sont la clé pour toute l'évolution humaine. Quand il marche sur l'eau, donc, ce n'est pas pour que cela soit écrit dans la Bible. Jésus avait tous les pouvoirs, même celui de marcher sur l'eau. Mais il fallait que cela soit écrit et conservé dans la Bible pour que les hommes, au cours des âges, se souviennent et comprennent le message de Jésus, même si Jésus n'en aurait jamais parlé. Car il y a une chose qui passe les siècles, qui passe même, que ce soit à l'encontre des ennemis ou de l'ignorance, il y a une chose qui traverse toutes ces péripéties, c'est le symbole. Lorsque l'on regarde la Bible, on s'aperçoit que tout ce qu'a pu dire Jésus ou faire Jésus a été déformé. Et c'est inévitable. Non seulement parce que l'époque de Jésus est une époque lointaine, mais en plus parce que, à travers les âges, les pères de l'Église avaient leurs idées sur ce qu'avait dû être la vie de Jésus, sur ce qu'avait dû dire Jésus, et c'était leur idée qui passait avant. Ce n'était pas parce qu'ils ne voulaient pas croire ce qu'a dit Jésus. Tout simplement, leur niveau de conscience ne leur permettait pas de faire une traduction juste de la langue dans laquelle s'est exprimé Jésus. Alors, en la traduisant, la parole de Jésus, en la traduisant en langage moderne, en langage de leur époque, Ils se sont dit, cela doit être à peu près ça. C'est sans doute cela qu'a voulu dire notre Seigneur. Et ainsi, la parole a été déformée. Seulement, il y a une chose qu'aucun père de l'Église n'a pu déformer. C'est un certain nombre des actes de Jésus. Les actes sont là. On ne peut pas les traduire, les déformer, tourner autour, les transformer. Quand Jésus marche sur l'eau, il marche sur l'eau. Et cela se dit de la même façon dans toutes les langues. C'est pour cela que quand un grand initié ou un grand maître vient donner un témoignage aussi grand que ce qu'a dû faire Jésus, quand il vient donc, il sait très bien que ce qu'il va enseigner va être détruit avec les âges, va être transformé, oublié, retrouvé, mais retrouvé que dans une petite mesure, donc grandement déformé. Il sait donc que tout ce qu'il va dire avec les mots va finir au bout de quelques siècles par dire exactement le contraire de ce que lui, en tant que maître, avait dit au début. Et pour prévenir en quelque sorte cette déformation, le maître appuie son enseignement sur un certain nombre de symboles. Et ces symboles, il les exprime par un certain nombre d'actes. C'est pour cela que lorsque vous étudiez la vie de Jésus, ou la vie de Krishna, ou la vie d'un quelconque autre grand sage, vous vous apercevez que c'est toujours la même vie qui recommence. Et lorsque Jésus marche sur l'eau, il dit aux hommes, « Dégage-toi du courant et comme moi, marche au-dessus de l'astral si tu veux regarder la face de ton Père. » Reprécisons la situation. Il y a la mer qui est agitée. Il y a la mer qui connaît la tempête. Qu'est-ce que cela éveille pour vous comme image? Une mer pleine de tempêtes et de remous. C'est la vie de l'astral, la vie des passions, la vie de la peur existentielle, la peur de croire en Jésus ou de ne pas croire, comme l'éprouvaient les disciples qui étaient dans la barque avec lui, comme l'éprouvent la plupart des disciples aujourd'hui encore. Est-ce que je dois me lancer dans la foi ou est-ce que je dois garder mon sens concret? Parce que la vie, elle est après tout très concrète. Je ne peux pas me lancer complètement dans ce délire que l'on me demande quand on me demande d'être un être de foi. C'est ce que pensent certains disciples. Et à ce moment-là, ils sont dans la barque et la tempête les remue. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Est-ce que je me voue à Dieu ou est-ce que je ne me voue pas? Est-ce que je me livre au maître ou est-ce que je ne me livre pas? Parce que me livrer au maître, c'est quelque chose de fou. Dieu sait ce qu'il va me faire faire. Il va peut-être dès demain me dire d'abandonner mon travail, d'abandonner toute logique dans la vie, de ne plus me faire de soucis pour le lendemain, pour ce que je vais porter comme habit ou manger comme pain, parce que c'est ce qu'a dit Jésus à ses apôtres. Alors le disciple, pour se donner bonne conscience, dit « Oui, Jésus pouvait dire cela à son époque. Il n'avait qu'à décrocher les olives des oliviers. » Et il pouvait manger quand même. Mais aujourd'hui, il faut avoir son appartement, il faut avoir sa voiture, il faut pouvoir travailler dans des conditions correctes, donc il faut avoir des beaux vêtements, un téléphone chez soi. Il faut un tas de choses, Jésus, tu sais. Si tu revenais maintenant, je suis sûre que tu réviserais tout ce que tu as dit. Parce que la vie n'est pas la même. Ah oui? En discours intérieur, c'est ce que dit souvent le disciple quand il est dans la barque et qu'il a peur. et que son astral, cette peur, le ballotte dans tous les sens, car c'est la tempête. Alors quand il y a la tempête en toi, je te le dis, regarde bien la barque dans laquelle tu es. Regarde profondément, avec attention. Ce n'est qu'une barque, ce n'est que du bois. Et le bois, ça pourrit. Le bois devient mince. Le bois prend l'eau un jour. Le bois peut être cassé. Et même si ta barque te semble t'offrir quelque sécurité pour l'instant, dis-toi bien que le bois va pourrir et prendre l'eau. Et que même si tu t'accroches avec 15 bras au dernier bout de bois, tu vas couler quand même et tu seras dans le fond de la mer. Et on parlera de toi comme d'une vieille sentinelle qui est partie mourir au fond de l'océan. Et de temps en temps, on entendra ta voix malade qui dit « Aidez-moi ! Aidez-moi !» Alors que celui qui a vaincu la mort, qui a su gagner l'existence, te le dit et te le démontre. Viens, marche sur l'eau, n'aie pas peur, homme de peu de foi, marche sur l'eau. Alors le disciple qui voudrait réfléchir à ce que je dis pourrait me répondre, oh mais si ne plus avoir peur c'est une simple question de foi, alors je t'assure, dès demain je serai un homme qui pourra marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau n'est pas simplement possible grâce à un acte de foi. Marcher sur l'eau devient possible dès que les eaux sont calmes, donc dès que les peurs ont cessé d'exister. Ce qui était aquatique, d'un seul coup devient tapis, parce que les remous n'existent plus. Parce qu'en fait, si vous voulez tout savoir, ce qui rend l'eau comme étant un élément dans lequel on s'enfonce, n'est pas le fait que l'eau est de l'eau, et que l'eau n'est pas assez solide. Ce qui fait que l'eau est un élément dans lequel on s'enfonce, c'est tout simplement parce qu'il y a des remous. Et ces remous, qui sont comme des petits cyclones, ont une très grande force d'attraction. Ils créent des vagues, perturbent l'individu, le déséquilibrent, et le font tomber tête la première dans le premier remous, et ce remous va coller l'individu jusqu'au fond du courant. Si au contraire les peurs cessent et que le calme s'établit, automatiquement l'élément qui paraissait si peu solide devient solide. Et alors on peut marcher dessus. C'est tout simple. C'est une loi occulte. Lorsque donc l'individu calme ses peurs intérieures, ce que l'on appelle aussi, dans le jargon spirituel, ses conflits intérieurs. La personnalité qui dit « je ne veux pas » d'un côté, l'âme qui dit « je veux » de l'autre. Lorsque donc l'on calme ces conflits qui génèrent des peurs incroyables, lorsque ces conflits sont calmés, l'astral de l'individu devient de glace et l'initié peut marcher sur cette surface. Donc, et je vais ici me servir de la question qui a été posée car elle est fort intéressante et maintenant je peux y venir. Donc, lorsqu'un individu veut travailler à alchimiser ses énergies pour devenir non pas un être parfait, mais un véritable être, avec un grand E. Et il se trouve que être, ce grand être, c'est être parfait. Lorsqu'un individu veut donc absorber les énergies pour suffisamment les redistribuer, ou bien anéantir avec ses énergies de mauvaises énergies qui sont à l'intérieur de l'inconscient et de la matière inerte, car il existe une matière inerte dans l'individu. On en parlera peut-être après, sinon une autre fois. Pour donc savoir absorber, redistribuer, amplifier, renvoyer ces énergies, il faut avant tout travailler au niveau des conflits intérieurs, au niveau des peurs. Mais la peur dont je parle n'est pas simplement la peur du chien du voisin, ou la peur des couteaux, ou la peur des serpents. Ça, c'est une peur anodine qui ne compte pas. Cela met un peu d'humour, un peu de poivre dans la vie. Je parle d'une peur que l'on appelle en termes spirituels plutôt conflit, mais qui en fait est une peur. Un conflit, c'est une peur. Quand un disciple est là et qu'il ne sait pas s'il doit sauter ou pas, s'il va sauter ou pas, s'il doit se livrer entièrement au maître ou pas, ce n'est pas parce qu'il est en train de réfléchir et de faire ses comptes avec Dieu. C'est parce qu'il n'est pas suffisamment délivré de sa masse inerte, de cette formidable force d'attraction que rayonne la masse inerte. Et n'étant pas suffisamment délivré, il y a en lui une peur immense. Et c'est cette peur qui l'empêche de faire le pas dans le vide. Cependant, lorsqu'il va intellectualiser sa situation, lorsqu'il va réfléchir à sa situation, il ne va pas ressentir la peur. Il va se dire, je ne suis pas très certain, je ne suis pas très sûr de moi, et puis je ne sais pas comment m'y prendre, et puis je ne sais pas ce qu'on attend de moi après tout, et puis on me laisse soupçonner que je dois aller par là, mais finalement j'en sais rien. Et si je me trompe, où est-ce que je vais aller ? Dans quelle voie sans issue est-ce que je vais m'enfoncer? Et ça aura été bien fait pour moi si je me trompe. Et personne n'ira me rechercher. C'est l'épreuve du discernement. Ouh, j'ai peur du discernement. Parce que je ne sais pas véritablement juger les situations. C'est ce que pense le disciple. Et il n'y a pas plus fausse pensée et pire pensée que celle-là, que celle de l'hésitation et de la spéculation mentale autour de cette hésitation. Regarde ta position une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce que tu vois véritablement? Est-ce que tu vois vraiment un homme qui est en train de réfléchir s'il va dans la bonne direction? Est-ce que tu vois véritablement un homme qui se demande s'il fait bien d'aller là? Est-ce que tu vois vraiment un homme qui se demande si en faisant cela, il s'assure un avenir ou s'il ne fait pas plutôt un rêve? Authentiquement, honnêtement, sincèrement, tu sais très bien que non. Pourtant, c'est ce que tu te dis. Mais tu sais très bien que ce n'est pas cela le tableau. Le vrai tableau, c'est un homme qui pense toutes ces choses parce que, en premier lieu, il n'ose pas se lancer dans le vide et que le vide fait peur. Quand on se lance dans le vide, eh bien c'est vrai, on se demande par effet second au niveau du mental, parce que le mental très vite prend l'affaire, il se dit « oulala, là il y a du bois pour se chauffer, vite, vite ». J'amène mon baluchon de pensée, on va passer une bonne soirée. Je vais lui dire qu'il risque, qu'il ne risque pas, qu'il ne peut pas y aller ou bien qu'il peut y aller. Au moins, j'aurai de quoi discuter ce soir. Il y a donc le mental qui, par effet second, s'empare de l'affaire. Et lui, oui, à ce moment-là, il va dire, Je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est une vérité. Je ne sais pas si j'aurai demain à manger. Je ne sais pas si demain j'aurai le succès ou j'aurai suffisamment d'amis, suffisamment de soutien pour faire la chose. Je ne sais pas non plus si c'est la bonne heure pour décider de faire la chose. Mais ceci n'est qu'un effet second du mental qui prend l'affaire en main. Mais qui a créé l'affaire ? Ce n'est pas le mental. Le mental n'est qu'un exécutant. Le mental n'est pas là pour dire à l'homme, attention, hein, si tu fais cela, ça va être très mauvais pour toi. La plupart des gens croient que le discernement vient du mental. C'est faux. Il n'y a pas plus faux que cela. C'est pourquoi le disciple qui est en train de réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, et si j'y vais, je risque de manquer à boire, à manger, etc. C'est pourquoi ce disciple-là fait une erreur fondamentale en pensant qu'il est dans un état de discernement parce qu'il réfléchit à tous les risques et à tout le délire qu'il y a dans ce qu'on lui demande. Le mental n'est pas capable de discerner. Le mental est soit une mémoire, soit un témoin par lequel la conscience devient objective et peut dire « je ». Le discernement vient complètement d'ailleurs. Le discernement est un effet du regard de l'âme sur sa propre vie qui, elle, est sur la terre, dans sa personnalité. Et j'ajouterai, pour donner une définition complète et exacte, que le discernement est le regard de l'âme sur sa personnalité, sur sa vie, mais que ce regard est proportionnel à l'axe que fait la personnalité avec l'âme. Donc ce regard est proportionnel au regard qu'aura aussi la personnalité. Et c'est pourquoi il faut absolument que l'homme aligne aussi bien son œil intérieur, que l'on situe au niveau du troisième œil, que l'œil de son âme. Il faut qu'il aligne les deux yeux, en quelque sorte, appelons-les comme ça. Il faut qu'il aligne les deux yeux exactement dans le même axe. Comme cela, l'âme donnera à l'être qui est la somme des deux yeux, admettons, pour faire un dessin qui puisse émettre en vous une compréhension. L'homme qui est la somme des deux yeux va recevoir à ce moment-là la vision de l'âme. Et ainsi son troisième œil, qui est le réceptacle de la vision de l'âme, ce troisième œil va dire, mais non pas à haute voix, dire en tant que direction qui va être prise par intuition ou même sans réfléchir, comme si les événements venaient se fabriquer. C'est ce troisième œil qui va dire, tu dois faire ceci, tu vas faire cela. C'est pourquoi le troisième œil est aussi apparenté à l'endroit du pouvoir de direction. Quand un homme, donc, paraît savoir ce qu'il veut dans la vie, lorsqu'il paraît savoir où il doit aller, cela vient d'une activité du troisième œil. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'activité propre au troisième œil. Car beaucoup de gens peuvent avoir un troisième œil actif sans n'être pas pour autant développé dans le discernement. Le troisième œil a plusieurs niveaux. Il y a un troisième œil astral, et uniquement astral, qui permet de voir donc le monde astral, mais aussi le corps éthérique, qui permet de voir les auras de tous les règnes de la nature et même du règne humain. Et puis il y a un autre troisième œil qui est comme accolé au premier troisième œil, mais situé beaucoup plus profondément, comme dans le tunnel de la conscience en quelque sorte, du degré de vibration. Il y a ce troisième œil qui est un pont entre les deux, entre le monde physique et le monde astral aussi, puisque l'on peut considérer le monde astral comme faisant partie du monde physique, car c'est un monde très dense. Il y a donc ce deuxième niveau du troisième œil qui relie le troisième œil physique éthérique au troisième œil qui est purement divin. Le deuxième aspect du troisième œil n'est pas véritablement actif. Il a plutôt fonction de faire le joint, de faire la connexion. Il y a un certain nombre d'énergies qui se mélangent à ce niveau-là et qui même favorisent des expériences, mais l'on ne peut pas dire que le deuxième niveau du troisième œil soit véritablement un siège de conscience. Par contre, le troisième niveau est vraiment un siège de conscience. C'est le siège où, en fait, l'intelligence de l'individu va recueillir dans sa coupelle, dans une coupelle qu'il tend au bout de ce troisième œil, va recueillir la vision de l'âme. Et c'est pour cela que l'homme a un troisième œil. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que l'homme possédait un troisième œil? Vous l'admettez. Vous pouvez même le sentir en vous-même ou expérimenter certains paysages grâce à ce troisième œil. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi, comment cela se fait, quelle loi occulte a créé le troisième œil et pourquoi cette loi occulte existe permettant de créer le troisième œil. Le corps physique et le corps éthérique direct, c'est-à-dire celui qui est très proche du corps physique et que l'on peut donc considérer comme appartenant au plan physique lui aussi. Donc le corps où se trouvent les premiers degrés des chakras, du troisième œil, du coronal, etc. On peut appeler ce premier corps, on peut l'appeler aussi corps physique. Le corps physique a été construit non pas au petit bonheur la chance, parce que les maîtres ont découvert que, tiens, pour prendre une orange, il faut que l'homme ait une main. Alors, fabriquons-lui une main. Mais pour aller jusqu'au pommier, il faut avancer. On ne peut pas faire des hommes des culs de jatte. Alors, nous allons créer des jambes. Et pour que la pomme puisse être mangée, il faut qu'il y ait une bouche, qu'il y ait des dents et qu'il y ait aussi une gorge pour amener les aliments à l'estomac. Il faut que l'estomac existe, il faut que la pomme soit digérée, il faut que des feux, des substances existent, que la chimie ait lieu, etc. Les maîtres ne se sont pas creusé la cervelle de cette façon-là pour créer l'homme. Car n'importe quel homme très simple, au jugement très archaïque, peut simplement venir vers le maître, lui dire « Mais tu sais, si tu as créé tout cela pour simplement manger une pomme, moi j'avais une solution très simple. Tu n'avais qu'à pas prévoir que l'homme est à manger des pommes et ça réglait tout ton problème. » Donc, le corps n'a pas été créé comme il existe, avec son estomac, avec ses intestins, avec ses poumons, avec les dents, la langue, les sucs digestifs, les doigts, tout ce que vous connaissez, pour simplement assimiler la nourriture. Car il aurait suffi pour cela de créer un corps qui n'avait pas besoin d'être régénéré par la nourriture. Si le corps est bâti tel qu'il est bâti, c'est donc pour une autre raison. Et la raison est purement alchimique. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour comprendre tous les mystères, même les plus simples, rappelez-vous toujours cette phrase, de façon à ce que votre vision soit toujours une vision occulte et cosmique. Même lorsque vous allez glaner et récupérer des informations du monde scientifique, vous devez les adapter tout de suite à une vision cosmique et occulte. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on contemple le corps et de la façon dont il est fabriqué? Eh bien, cela veut dire que l'homme mange. Non pas parce que les dieux constructeurs n'ont pas été assez malins pour construire une cellule éternelle, ou en tout cas une cellule qui ne se dégrade qu'à partir de 60 ans ou 70 ans, même si elle n'a aucun carburant pour se régénérer. L'homme mange donc pour une autre raison que simplement régénérer ses cellules pour se maintenir en vie. Étudions cette loi qu'est le besoin de manger. Imaginez-vous dans la position de celui qui mange, puisque c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois par jour. Observez votre geste. Qu'est-ce que c'est qui vous pousse à manger? Lorsque vous avez faim, que vous comprenez que vous avez faim, vous sentez un creux à l'estomac. Ou bien vous sentez une légère faiblesse vous accabler. Et vous vous dites, il faut que j'amène du carburant à ma machine, sinon elle ne va pas démarrer. Vous avez compris la première raison, nécessité du carburant. Mais allez plus loin pour avoir la vision occulte et cosmique. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de carburant pour vivre et perpétuer mon corps? Si j'ai besoin de carburant pour faire vivre mon corps, c'est que la vie de mon corps n'est pas simplement dépendante de ce que je mange, mais surtout de l'énergie que je mange par l'intermédiaire des aliments. Donc, quand un homme mange, il ne perpétue pas la vie de son corps, puisqu'un jour, finalement, il meurt. Si l'homme ne manger que pour faire survivre son corps, il serait éternel. Jamais il n'aurait de faim, de mort. Automatiquement, la nourriture lui servirait d'éternité, de pain de vie, comme on dit. Simplement, voilà, même si l'on mange, on meurt. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'énigmatique là-dedans? Parce que si je pense que je mange pour perpétuer ma vie, je devrais logiquement, puisque la création est logique, je devrais logiquement pouvoir être éternel. Or, je meurs. Et surtout si j'ai beaucoup mangé. Donc, me nourrir n'est pas la cause pour ma survie ni de ma survie. Pourquoi est-ce que donc je mange? Eh bien, je mange pour absorber des vibrations terrestres. Pourquoi est-ce que j'absorbe des vibrations terrestres? Parce que je suis un homme incarné et que je dois au plus profond de la terre aller chercher les énergies. Ces énergies qui vont permettre à mon âme de se développer, de s'épanouir, de devenir puissante. Et de faire rayonner en elle et de mettre en mouvement tous les sept rayons de la création. Et lorsque ces sept rayons sont mis en résonance, je deviens l'archétype et je suis un roi, le roi que l'on m'a promis d'être au début de la Bible. Donc pourquoi est-ce que l'homme mange? L'homme donc ne mange pas pour perpétuer son corps. Il mange parce que c'est un moyen comme un autre d'absorber des énergies. Ceux qui ont construit donc le corps, ceux qui ont
pré-créé la condition humaine, ont trouvé là le moyen le plus facile pour que l'individu absorbe par son corps éthérique les énergies les plus terrestres. Il y a là un autre mystère. Quand je dis qu'ils ont trouvé le moyen pour faire absorber par le corps éthérique les énergies les plus terrestres, cela veut dire donc que si l'homme ne mangeait pas, si l'homme n'absorbait pas, il n'aurait aucun moyen d'absorber par là même les énergies les plus terrestres, même s'il se trouvait dans un état d'incarnation. Il aurait beau respirer, il n'arriverait pas pour autant à capter, à intégrer des énergies vraiment terrestres qui proviennent du centre même de la Terre. Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'absorber les énergies venant profondément de la Terre? L'homme a besoin de les absorber parce que tout simplement, cette énergie est l'endroit d'une fulgurante existence, d'un fulgurant feu. Lorsque vous mangez par exemple une carotte, vous ne faites pas que manger une carotte pour avoir de la vitamine A et espérer avoir un beau teint. Lorsque vous mangez une carotte, vous mangez un type très précis d'atomes qui entretiennent entre eux une danse très précise de vie, ce qui crée par là même l'objet particulier que vous connaissez comme étant la carotte, ce qui crée par là même une vibration spécifique. La carotte a une vibration très spécifique. Quand vous mangez, vous absorbez des énergies. Vous ne mangez pas une carotte, vous ne mangez pas du pain. On se moque des minéraux, des vitamines et tout ce que vous pouvez connaître grâce à la science. Je ne dis pas que ces éléments n'ont pas d'importance dans la vie ou la survie. Ils sont fondamentalement importants. Simplement, ces éléments ne peuvent avoir aucune existence si l'énergie n'existe pas avant tout dans le légume ou le fruit, ou dans les céréales. Et c'est pourquoi de plus en plus aujourd'hui, les individus vivent des carences alimentaires énormes, tout en ayant suffisamment d'aliments à se mettre sous la dent. Mais c'est simplement parce que l'aliment ne dégage plus aucune énergie. L'énergie est morte. Alors vous pouvez manger des millions et des millions de tonnes de carottes. Vous n'aurez jamais de vitamine A dans votre organisme. Et votre teint restera aussi blafard. Comment faire donc pour absorber la quantité suffisante, non seulement de vitamines et de minéraux, mais aussi de bien d'autres éléments dont on n'a que des traces très minimes dans l'organisme, mais qui sont très importants pour l'équilibre et la fixation des énergies? Car si vous êtes composé en tant que minéraux, en tant que vitamines et tout le reste, ce n'est pas uniquement parce que pour être frais et intelligent et en bonne santé, eh bien il faut des vitamines et des minéraux et de tout le reste. S'il y a des vitamines, c'est parce que seule la vitamine, qui est un élément vivant, qui est une petite entité en quelque sorte, une entité spécifique, seule la vitamine permet de fixer un certain type d'énergie dans l'organisme. Et c'est pourquoi dès qu'il vous manque des vitamines ou des minéraux, la faiblesse vous accable. Mais la faiblesse n'est pas là parce que les vitamines vous manquent. La faiblesse est là parce que les vitamines manquant, l'énergie ne peut pas se fixer dans votre organisme. Vous n'êtes donc pas dévitaminé, vous êtes dévitalisé. Et c'est complètement différent. Mais cependant, il est vrai que si l'on veut vraiment vous revitaliser, il faudra aussi vous vitaminer. C'est évident. Mais la cause profonde de votre santé, ce n'est pas la présence des vitamines, mais c'est grâce à la présence des vitamines la possibilité de fixer un certain rayon, une certaine énergie. C'est pourquoi pour être dans une méditation parfaite, ou au moins avoir la chance de faire une méditation parfaite, il faut que votre corps soit lui aussi en parfait équilibre. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont malades ou anémiés ou dévitalisés n'auront jamais aucune chance de faire une bonne méditation. Mais je dis que quel que soit leur talent à faire une bonne méditation, ils seront entravés parce que leurs cellules, leur corps, ne leur permettra pas de fixer l'entier des vibrations qu'ils sont capables de recevoir ou d'émettre. C'est pourquoi un corps sain est absolument nécessaire pour le travail de la libération ou de l'illumination. Ce qui ne veut pas dire que par mes paroles, j'exclus de l'illumination tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont des problèmes avec leur vitalité. Je dis simplement qu'ils seront entravés pour ceux qui commettent des accidents qui les entraînent dans ce genre de cas. Ou bien, si la maladie est karmique, si le problème est karmique et qu'il vient donc de loin, c'est donc quelque chose qui va participer à une certaine purification, une certaine élévation des cellules. Et pour plus tard, l'alignement est promis. Ce qui ne veut pas dire que pour l'instant, le malade ne peut se disposer à aucune élévation spirituelle. Au contraire, plus que quiconque, je l'encourage à faire des efforts dans la spiritualité, car c'est comme cela qu'il accélérera la chute de son karma, ou qu'il accélérera l'évacuation de l'accident volontaire ou involontaire qui a créé la situation de maladie ou de dévitalisation. Et ainsi, grâce à cette accélération, plutôt que prévu, l'individu se retrouve dans un état de santé. Donc, plus que quiconque, il a le devoir de passer à grande vitesse dans la spiritualité. Mais les premiers effets de sa spiritualité ne seront pas des effets qui vont l'amener à l'illumination. Les premiers effets seront la purification, le réalignement, et ensuite l'illumination. Donc, revenons à ce troisième œil et revenons à la formation du corps physique. Pourquoi est-ce que l'homme a un troisième œil ? On a vu pourquoi un homme mange. Pourquoi est-ce que l'homme a un troisième œil ? Et par là même, pourquoi est-ce qu'il en a deux sur son visage ? Pourquoi donc est-ce que l'homme est doté de vision ? Que la vision soit physique, éthérique ou spirituelle. Et voilà que la clé est donnée. La vision spirituelle. Le corps est l'état le plus matériel de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a la conscience et son aspect le plus matériel qu'est le corps. Le corps étant l'aspect le plus matériel de la conscience, le corps va être donc construit en relation et en ressemblance exacte avec la nature de la conscience. Ce qui a fait écrire au début de la Bible « Et Dieu créa l'homme à son image ». Pour comprendre cette phrase, il faut savoir que la conscience, en plus d'être la conscience qui est la vôtre, même si l'on imagine une conscience très spirituelle, cette conscience est avant tout une étincelle divine, donc la conscience de Dieu. Ce qui fait que même en ayant une conscience individuelle, vous êtes la conscience de Dieu, donc vous êtes l'archétype. Il est donc normal que votre corps soit fait à la ressemblance de l'archétype. Simplement, Le corps matériel étant la projection matérielle des lois occultes de l'âme, le corps va donc afficher de façon très physique des lois qui sont toutes spirituelles dans la vie de l'âme. Autrement dit, si vous pensez que vous avez deux yeux parce que votre âme en cache peut-être deux sous son manteau, eh bien vous avez tort. Vous pourrez chercher dans le sein de l'âme, sur la surface de l'âme, ou que ce soit dans l'âme, vous ne trouverez aucun œil, aussi spirituel soit-il. Cependant, il y a quelque chose que vous contemplerez de l'intérieur. Parce que c'est quelque chose qui vous est promis, c'est quelque chose que vous devez obtenir et vivre. Et ce quelque chose qui a dans le monde physique créé les deux yeux, qui a dans le monde éthérique créé le troisième œil, ce quelque chose qui a créé cela, mais qui vit dans le monde spirituel de l'âme, c'est simplement la vision spirituelle. Et ceux qui sont capables d'une certaine intuition me comprendront parfaitement. Beaucoup d'individus appellent cela la vision intérieure. Cela n'a rien à voir avec une vision qui se propose à l'esprit comme un paysage, comme une image. C'est plutôt une sorte